Réforme. Développement. Impact. Centre Zoé.
Comment va ton cœur? Et on avait commencé à regarder plusieurs choses. Vous pouvez chercher Proverbe 4, 23. C'est notre passage de référence. Et on va regarder ensemble encore ce que le Seigneur veut nous dire sur ce sujet. Et on avait commencé donc à commenter ça. Je vais résumer brièvement. Et puis on va poursuivre tranquillement. On va continuer à poser des fondements dans un premier temps, mais qui vont être vraiment qui vont nous aider et qui vont nous fortifier. Donc Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et donc la dernière fois, on avait passé un peu de temps dans ce passage, je l'avais commenté, et on avait vu ensemble, à partir du texte original, qu'en fait le cœur ici, ça désigne tout simplement notre être intérieur. Donc la parole nous dit « garde ton être intérieur plus que tout le reste ». Et on essaye tous plus ou moins de faire attention, de garder, de protéger, de veiller, de nourrir, de soigner notre être extérieur, hein, nos corps. Les gens cherchent beaucoup tout ce qui est bien-être, on fait du sport, on fait plein de choses pour notre être extérieur. Mais l'Écriture nous dit « par-dessus tout, garde ton cœur, ton être intérieur, car de lui viennent les sources de la vie. » Et on avait vu ensemble que ce terme source, en fait dans le grec ça veut dire source, mais ça veut aussi dire les limites, les frontières, eh bien on pourrait dire le cadre de ta vie. Donc l'Écriture nous dit, garde ton être intérieur plus que tout, car de ton être intérieur, je reformule, dépendent les frontières, les limites de ta vie. En fait, l'Écriture nous dit, garde ton cœur, garde ton être intérieur, car de ton état intérieur va dépendre finalement ton état extérieur. Ton état intérieur va déterminer les frontières, les limites de ta vie. Et je vous avais partagé comment, quand j'ai découvert ça, c'est un verset que je connaissais plus ou moins et que j'avais déjà lu, étudié, j'avais même enseigné plusieurs fois sur ce sujet et des très bonnes choses, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, mais c'est quand même impressionnant de se dire que de ce qui se passe dans mon cœur, de mon être intérieur, dépendent mes circonstances, ce qui se passe autour de moi. Et on avait regardé d'autres écritures, je ne vais pas tout reprendre ici, mais vous pourrez retrouver le message sur Internet et réécouter tout ça. Et puis on a cette écriture aussi assez connue, familière de 3 Jean 2, qui dit « Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Donc là encore, on voit que l'état de notre âme eh bien, est déterminant par rapport à tout le reste de notre vie, puisque si l'Écriture, et j'allais dire Dieu lui-même, désire pour nous la prospérité à tous égards, comme la prospérité de nos âmes, eh bien, encore une fois, ça nous montre que ça commence par l'intérieur, et puis de l'intérieur, de plus en plus, doit jaillir cette grâce de Dieu, cette puissance, cette vie en abondance, la vie divine elle-même qui nous a été donnée. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons été régénérés, recréés, nous avons reçu la nature divine, la vie de Dieu, mais maintenant elle doit pouvoir se manifester dans toute notre existence, dans notre être entier. Donc garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie, ou bien c'est de l'état de ton cœur que dépend tout le reste de ton existence. Les limites de votre vie sont déterminées par l'état de votre cœur. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est absolument pas, surtout, attention, c'est absolument pas condamnateur. Je suis pas en train de vous dire si ça va pas, eh bien c'est que ton cœur est en mauvais état. Si ça va pas, c'est que ton être intérieur est en mauvais état. Comme si c'était quelque chose qui vous tombe dessus et puis on vous accuse et puis on vous dit maintenant tant pis, c'est foutu pour toi. Non, c'est une bonne nouvelle. Ce que l'Écriture nous dit, garde ton cœur car de lui viennent les sources de la vie. Finalement, c'est-à-dire que j'ai quelque chose à faire et je peux faire quelque chose pour que les frontières, les limites, le cadre de ma vie changent. Et on avait vu ensemble que facilement quand on parle de changement, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à changer les choses extérieures. On change notre façon de nous habiller, on va changer de conjoint, on va changer de quartier, on va changer de ville, même de pays, on va changer d'église, on va changer tout ce qu'on peut changer. Mais si vous rencontrez la même personne des mois, des semaines, des années après, encore la même chose, les mêmes problèmes, les mêmes situations se renouvellent. Pourtant, on a changé tout ce qui pouvait être changé, sauf le plus important, le cœur. Le cœur. Et dans cette série « Comment va ton cœur ?», eh bien, on va se laisser emporter par le Seigneur, par le Saint-Esprit et par la parole. Et on va toucher pas mal de sujets. Et on va regarder comment l'état de notre cœur, d'une part, est important, c'est les fondements que nous posons maintenant, mais aussi on va voir comment et combien la parole de Dieu et en fait la puissance de Dieu est disponible pour que l'état de notre cœur change, s'améliore. Nous avons parlé de la nouvelle naissance, ce qui nous permet de recevoir finalement un cœur nouveau, d'être une nouvelle personne, d'être recréé. Mais nous allons voir aussi que même si ce monde et notre vie, nos expériences ont pu faire du mal, détruire ou déformer notre être intérieur, eh bien la grâce et la puissance de Dieu sont disponibles aussi pour nous restaurer, pour nous délivrer, pour nous guérir. Donc on sera amené à parler de pas mal de choses. On parlera des sentiments d'infériorité, on parlera des abus, on parlera de toutes sortes de blessures, de choses qui ont pu être là. Et non seulement nous en parlerons, mais surtout l'Esprit de Dieu amènera la grâce nécessaire pour qu'alors que nous toucherons ces sujets, eh bien la guérison, la délivrance puisse s'opérer de manière définitive et absolue. Et alors que nous puissions être une source aussi de guérison, de délivrance pour les gens qui sont autour de nous. Et vous savez, notre vie n'est pas déterminée par ce que les autres pensent de nous. Notre vie est déterminée par ce qui se passe dans notre cœur. Notre vie est déterminée par notre état intérieur. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Vous pouvez vous habiller mieux, vous pouvez vous apprêter mieux, vous pouvez poser plein d'actes qui peuvent être bons, mais ce n'est pas ce qui va impressionner Dieu, ce n'est pas ce qui va faire que vous recevrez votre miracle. La promesse de Dieu, l'appel de Dieu pour votre vie, la vision de Dieu pour votre vie, pour ma vie, ne se mettra pas en place parce que je vais faire plein de choses pour montrer à Dieu que je suis prêt. Toutes ces choses-là pourront se mettre en place et Dieu lui-même pourra agir, j'allais dire en coulisses, pour faire naître et créer les situations, les rencontres, tout ce qui est nécessaire à cette réalisation, à condition que je garde mon cœur plus que tout. Garder mon cœur, on l'a dit, c'est protéger notre cœur, mais c'est aussi travailler, c'est aussi nourrir, c'est aussi exercer notre être intérieur pour être de plus en plus conforme, et j'allais dire à terme complètement conforme, à l'image que Dieu a de nous et à la nature de Christ en nous, de telle sorte que tout ce qu'il a prévu pour nous puisse se réaliser. Donc l'Écriture nous dit, je le cite juste en passant, Luc 16, verset 15, eh bien Jésus parle de combien Dieu connaît notre cœur et qu'il ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. L'Écriture nous dit aussi dans 1 Samuel 16, 7, l'Éternel regarde au cœur. Donc nous avons besoin de veiller, encore une fois, et de soigner. Et Paul parlera aussi dans les Épîtres de la parure intérieure du cœur et toutes ces choses-là que nous avons vues en passant. Et 1 Corinthiens 3, verset 9, je vous invite à regarder ça avec moi encore, avant d'entrer dans le vif pour cet après-midi, et qui nous montre encore une fois combien Dieu désire, c'est vrai, nous utiliser, et ça c'est des sujets qui reviennent souvent chez les chrétiens et dans l'Église, et on a raison de parler comment être utilisé par Dieu, comment avoir plus d'onction, comment être influent, comment être un leader, tout ça c'est bien. Mais il y a une autre dimension qui est importante, et merci Seigneur pour les prières inspirées aussi qui ont été faites aujourd'hui et qui préparaient déjà tout cela. 1 Corinthiens 3, 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais remarquez, il est dit aussi, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et donc souvent on se voit comme ouvrier, co-ouvrier avec Christ, et on a raison, et donc on travaille dans le champ du Maître, on est dans le champ de mission, on travaille, mais en même temps, nous sommes nous-mêmes le champ de Dieu. C'est-à-dire que Dieu désire pouvoir nous travailler. Dieu désire pouvoir travailler son champ et tirer du bon fruit de son champ. Si vous prenez l'évangile de Jean, notamment au chapitre 15, il est dit que combien le Père veut pouvoir prendre du fruit, nous voir porter du fruit parce que nous demeurons en lui, que ses paroles demeurent en nous, et du fruit qui demeure, etc. Donc, en même temps qu'on veut peut-être servir Dieu, être utilisé par lui, eh bien, en même temps, on a besoin de permettre à ce que Dieu travaille son champ que nous sommes, puisque de notre état intérieur, encore une fois, va dépendre les choses que nous pourrons faire aussi. J'aime pas trop dire pour Dieu, je préfère dire avec Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on voudrait faire pour lui, mais en fait, même ça, ce n'est pas ce qui importe le plus et ce n'est pas ce qui sera le plus fructueux. Ce qui va porter du fruit, c'est ce que nous faisons avec lui. Et pour pouvoir faire des choses avec lui, nous avons besoin de lui permettre déjà de faire son œuvre en nous. Et quand il fait son œuvre en nous, alors on va voir que les choses prennent une dimension toute différente et que de plus en plus, il pourra faire aussi son œuvre à travers nous. Et ça, c'est une excellente perspective. Donc pour aujourd'hui, si on veut un sous-titre pour ce deuxième message, eh bien je l'intitulerai tout simplement « Diagnostic ». ou bien justement l'état de notre cœur. Et le but, l'objectif, c'est de nous amener à disposer nos cœurs et à permettre justement que l'œuvre que Dieu veut faire en nous puisse se faire. Donc avant même d'aller plus loin dans les sujets que j'ai cités et d'autres choses encore qui viendront, eh bien nous avons besoin de veiller. Est-ce que mon cœur est disposé? Est-ce que finalement, dans quel état je suis? Quel est le champ que j'offre à Dieu? Et pour cela, je vais utiliser cette parole de Jésus qui nous parle justement de différents terrains dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Et je vous invite à ce qu'on lise ça ensemble, Luc 8. Luc 8, au verset 4, même au verset 5, donc Jésus donne une parabole, Luc 8, verset 5. Jésus dit « Un semeur sortit pour semer sa semence, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crûrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. » Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent alors ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. J'ai presque envie de dire que ça suffirait comme prédication, puisque Jésus lui-même explique et nous parle. Et en lisant, peut-être que nous nous sommes reconnus à certains moments, mais j'ose espérer que nous avons reconnu peut-être certains épisodes de notre vie, mais qu'au final, nous arrivons à nous reconnaître dans la bonne catégorie, j'allais dire. Et l'objectif vraiment aujourd'hui, c'est d'observer brièvement ces choses-là et si nécessaire, de nous réajuster, de replacer notre cœur, nos dispositions dans la bonne catégorie, pour que Dieu puisse faire l'œuvre qu'il veut faire. Vous savez, quand on arrive comme ça et qu'on sort des messages, et surtout des séries de messages, c'est pas juste parce qu'il y a un sujet qui nous a frappé ou que la nuit on s'est réveillé, on s'est dit « tiens, je vais parler de ça et puis ça sera bien », mais c'est souvent, pour ne pas dire toujours, parce qu'il y a une pensée de l'esprit. Et quand il y a une pensée de l'esprit, il y a une œuvre de l'esprit qui accompagne. Et si nous sommes attentifs et réceptifs, on l'a déjà expérimenté plusieurs fois ensemble, eh bien Dieu peut faire ce qu'il a prévu de faire. Et alors que nous avions passé pas mal de temps à regarder comment faire de nos résolutions, des réalisations, comment on peut accomplir des choses, et ça nous a aidé et ça nous a permis d'avancer. Et aujourd'hui, il y a un travail beaucoup plus encore en profondeur que l'Esprit de Dieu veut faire et va faire si nous sommes attentifs. Mais pour ça, on a besoin vraiment d'avoir le cœur disposé. Donc ici, Jésus nous parle de plusieurs catégories, et je vais juste moi les reprendre en trois d'entre elles. Et premièrement, je voudrais parler du cœur dur. Et ici, il est parlé du bord du chemin, ou alors du roc, donc la pierre. Et la parole de Dieu arrivait au bord du chemin, ou alors sur une pierre. Et qu'est-ce qui se passe? Soit tout simplement, la parole n'est pas implantée dans les gens, c'est au bord du chemin, ça passe à côté, donc évidemment, ça ne produit rien. Et ça, c'est dommage, c'est triste. Ou soit, la parole arrive, elle produit quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne dure pas, parce qu'il n'y a pas de racine. Ici, il n'est dit pas d'humidité, et dans d'autres passage où on reprend cette même parabole et dit parce qu'il n'y a pas de racine. Et là, il y a deux gros problèmes qui se présentent. C'est que soit nous pouvons choisir de ne pas écouter la parole de Dieu, Donc ça ne fait que passer, et puis on est comme ce terrain de bord de chemin où même si Jésus passe par là et il envoie sa parole, mais ça ne produit rien parce que nous passons à côté. Et ça, c'est la solution est simple, c'est de se mettre à écouter la parole de Dieu. Là, il n'y a pas 36 000 choses à dire. Et sinon, nous pouvons aussi être comme ce cœur dur, c'est-à-dire ce terrain de pierre où la parole arrive et elle produit. Et ça, c'est super. Et du coup, à première vue, on se dit, c'est bien, Dieu a parlé, et puis il s'est passé quelque chose. Mais, après peu de temps, c'est comme si c'était jamais rien passé. Et en fait, on peut voir ici deux choses. Soit l'endurcissement du cœur de celui qui ne veut pas de la parole de Dieu, ou celui qui l'entend, mais qui se dit, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Et très souvent, on entend une parole de Dieu. Et même quand on a lu tout à l'heure la parabole, je soupçonne plusieurs d'entre vous de s'être dit « Ah tiens, c'est ce cœur-là, ça me fait penser à un tel ou à une telle. » Et donc, on pense que c'est les autres. On passe à côté de ce que le Seigneur est en train de nous dire. Donc, ça ne produit rien. Et d'autres fois, on reçoit la parole, ça pousse, mais le lendemain, c'est comme si c'était rien passé. On recommence à dire « Mais Seigneur, t'es où? Qu'est-ce qui se passe ?» Alors qu'hier, on était là à dire « Ah, Dieu est vivant, viens, je veux te montrer la voie du salut, c'est Jésus-Christ. » Et puis le lendemain, on est là et on se demande tout juste si on n'a pas besoin soi-même d'être de nouveau sauvé. Et tout cela, c'est quand même assez problématique si on veut être dans la maturité que Dieu veut pour nous et si on veut voir les choses se réaliser. C'est les gens qui accomplissent des choses avec Dieu. D'une part, mais même tout simplement dans la vie. Vous constaterez que ce sont des gens qui ont appris à avoir une certaine stabilité, régularité, et des gens qui sont très réceptifs à beaucoup d'informations, à des connaissances, des gens qui font des formations, qui font des recherches et qui aspirent à un maximum de choses et qui à un moment vont pouvoir aussi les réitérer et les appliquer dans leur domaine de compétences et qui vont donc réussir. Et si nous voulons réussir, si je veux dire, notre vie chrétienne, et quand je dis « si nous voulons », en fait, c'est même pas une option. Jésus nous a sauvés pour que nous portions du fruit et du fruit qui demeure. On n'a pas d'autre choix. Soyons des chrétiens, des croyants responsables. Là, on a trop souvent toléré, ou on sait trop souvent toléré, alors attention, j'assaisonne tout de suite de grâce tout ce que je suis en train de dire, mais on sait souvent toléré à dire, ouais, après tout, même si on vit tout juste notre vie, et puis qu'il ne se passe rien de spécial, et puis qu'on est médiocre pendant toute notre existence, c'est pas très grave, l'important c'est qu'on soit sauvé, et puis qu'un jour on aille au ciel, mais vous savez, tout ça, moi, ça ne m'intéresse plus. Et je crois qu'il est temps et grand temps que vraiment un peuple de Dieu se lève et ose se saisir de la parole de Dieu et qu'on arrête de dire que, après tout, oui, il y a écrit ça, mais bon, vous voyez bien, de nos jours, c'est plus tellement d'actualité. Et puis, on va expliquer pourquoi ça ne marche pas. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a envoyé faire. Et moi, je refuse d'essayer d'expliquer pourquoi ce que Dieu a dit ne fonctionne pas. Il vaut mieux rechercher pourquoi ce que Dieu m'a dit ne fonctionne pas dans ma vie et se dire où est-ce que j'ai quelque chose à régler, où est-ce que nous avons peut-être en tant qu'Église en général ou même le monde tout simplement a besoin de se dire mais après tout on est passé à côté de quelque chose. Et petit à petit on a écarté Dieu et sa parole et son message de tout ce qu'on fait et aujourd'hui rien ne va plus. Mais au lieu de se dire ça va plus parce que peut-être que Dieu a changé d'avis ou parce que peut-être que on peut adapter toutes ces choses-là, ça va nous amener nulle part. Et au contraire, ça va encore plus endurcir le cœur des gens. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir des circonstances, des situations qui font que le cœur de quelqu'un s'endurcit. Vous savez, quand quelqu'un est blessé ou quand quelqu'un vit des événements difficiles, il peut se construire des forteresses, des barrières comme pour se protéger. Et à la longue, son cœur va s'endurcir. Et d'autres fois aussi, quelqu'un peut être tellement fixé sur lui-même que finalement, il en oublie de garder les regards sur Jésus. Il s'est fait son petit monde, il s'est mis ses sécurités, mais ce sont ses propres sécurités. Et le problème, c'est que bien souvent, nos propres sécurités et nos propres barrières que nous mettons en pensant nous protéger des autres, et peut-être même nous protéger du monde, ou parfois, tristement, nous protéger des autres chrétiens, mais le problème, c'est que ces frontières-là que nous mettons nous-mêmes, finalement, elles nous séparent de l'amour de Christ, et elle nous sépare de la puissance de Jésus. Et en fait, alors qu'on s'est construit ces barrières pour se mettre et se dire, là au moins je suis tranquille et il ne va plus rien m'arriver, on s'est tellement bien mis dans notre forteresse que Jésus lui-même n'a plus accès. Et là, il y a quelque chose qui va avoir besoin d'être cassé. Si nous voulons que réellement la vie divine qui est en nous puisse jaillir, si nous avons un cœur dur, ça ne fonctionnera pas, on ne pourra pas. Et bien souvent, on peut se rendre compte que au départ, on se protège, on pense, il y a des coups, il y a des difficultés, donc on s'endurcit en pensant bien faire. Mais le problème, c'est qu'à la longue, on devient de plus en plus dur et de moins en moins réceptif, et on accueille de moins en moins la parole de Dieu, l'amour de Dieu, et finalement, comme nous dit l'Écriture, on finit même par se détourner de Dieu. Vous savez, Hébreux 3, verset 12 nous dit que par l'endurcissement du cœur, on finit par se détourner de Dieu. Et donc, il y a un grand danger. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut et veut guérir les cœurs blessés. Dieu peut et veut guérir ces personnes-là et ces domaines-là de notre vie pour lesquels on s'est mis derrière une forteresse. On a construit quelque chose en disant, là, non, je ne me ferai plus jamais avoir, je me protège, je cache cette partie de ma vie ou de mon être, je ne veux pas que quelqu'un puisse y toucher parce que ça fait trop mal. Mais aujourd'hui, si nous le désirons et si nous l'acceptons, et si nous ouvrons de nouveau notre cœur à l'action du Saint-Esprit, il va nous guérir. Il va nous guérir, même dans ces domaines-là. Parce que si nous avons un cœur dur, eh bien, la parole de Dieu ne peut pas prendre racine. Et soit nous passons à côté, soit, eh bien, elle peut arriver, comme nous l'avons vu, porter un fruit, mais ce n'est pas quelque chose qui va tenir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de profondeur. Et nous avons besoin de permettre à la parole de Dieu de s'enraciner. Et pour qu'elle s'enracine, eh bien, il faut une terre qui soit propice. Enfin, je ne suis pas un grand jardinier, mais ne serait-ce qu'avec cette parole des Écritures, on sait que si on met une semence sur de la pierre, eh bien peut-être que ça va pousser un petit peu parce qu'il y a un petit peu de terre entre les rochers, mais ça ne peut pas se développer, ça ne peut pas grandir comme il faut parce qu'il n'y a pas tous les apports nécessaires qu'aurait eu normalement la graine dans une terre propice et une terre qui a été travaillée et une terre qui est arrosée. Et il y a vraiment toute une analogie ici qui pourrait être développée, mais c'est pas complètement l'objet aujourd'hui. Donc, un cœur dur, eh bien, on voit que ça va pas, ça permet pas à la parole de Dieu de faire son travail. Mais ça existe, et bien des gens arborent ce cœur dur, mais ça peut changer. Le deuxième cœur, la deuxième catégorie que je voudrais observer avec vous, c'est ce que je qualifierais de cœur mou, entre guillemets. Et en fait, avoir un cœur dur, c'est pas bon. Mais avoir un cœur mou ou trop mou, c'est pas bon non plus. Et quand je parle d'un cœur mou, eh bien, on pourrait mettre plein de termes derrière. Alors, on peut parler d'hypersensibilité, on peut parler de paranoïa, d'instabilité, d'être facilement affecté par toutes sortes de choses. Ou encore même un cœur qui est trop spongieux et qui donc est perméable à tout. C'est-à-dire qui accueille tout, qui reçoit tout et qui n'a pas de prise de position ferme et qui va finir par être ballotté à tout vent. Et Jacques met en garde en disant attention à ne pas être ballotté à tout vent de doctrine et puis être flottant, emporté par tous les courants, parce que sinon vous êtes quelqu'un d'irrésolu et vous ne pouvez pas imaginer recevoir quelque chose de Dieu. C'est en reformulation ce que dit Jacques. Et ça paraît grave comme déclaration et c'est pourtant la vérité. C'est, on voudrait parfois recevoir des choses de Dieu ou même apporter des choses au monde qui nous entoure, mais encore une fois, l'état de notre cœur va être déterminant. Si notre propre cœur n'est pas disposé, n'est pas positionné comme il se doit, eh bien, nous aurons beaucoup de difficultés à nous développer dans ce que Christ a pour nous et amener les autres aussi à l'expérimenter. Donc là aussi, parfois, les difficultés, les coups qu'on a pu prendre ou ce qui a pu se passer, eh bien, ça peut briser notre cœur et ça peut faire que finalement, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus où donner de la tête. Et combien souvent des gens nous disent ben, « moi je ne sais plus où j'en suis » et on se rend compte même en observant un petit peu leur vie ben, qu'ils se font facilement avoir par plein de choses. Parce que du coup, ben, au lieu de s'endurcir pour se protéger, ils se sont dit ben, « moi je vais chercher un petit peu partout et à toutes les sources possibles une occasion peut-être de recevoir cette affection dont j'ai besoin. Une occasion peut-être de recevoir la direction. Une occasion peut-être de trouver la vérité. » Donc ils sont ouverts à tout, ils acceptent tout et résultat, encore et encore et encore, ben, ils se font abuser, ils se font tromper, ils retombent dans des déceptions sur déceptions parce que leur cœur finalement est mou. Il est mou, il se laisse aller à toutes sortes de choses et d'une certaine façon, même parfois un peu insaisissable. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Un jour ils veulent une chose et puis le lendemain ils veulent de nouveau plus ça ou ils veulent autre chose. Ou ils expriment une demande, vous leur donnez et puis finalement ils ne sont quand même pas satisfaits parce qu'ils veulent autrement. Et, enfin, toutes sortes comme ça de déséquilibres qui peuvent qualifier un cœur qui est trop mou, un cœur qui est comparable ici avec la parole qui va tomber dans les épines. Hein, c'est que il y a peut-être la parole de Dieu, il y a quelque chose, mais il y a plein d'autres choses qui grandissent avec. Il y a tout un mélange, et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est bien toutes ces autres choses qui ont poussé avec la parole de Dieu. Toutes ces autres choses, et il a dit même les soucis de la vie et les circonstances et tout ça, eh bien ça va finir par étouffer la parole de Dieu. Et c'est vrai au sujet de la parole de Dieu elle-même, mais c'est vrai au sujet de la parole de Dieu faite chair. C'est-à-dire que si nous sommes perméables à tout et que toutes sortes de choses grandissent et se développent dans notre vie en même temps que Jésus lui-même, qui habite en nous, qui veut demeurer avec nous et être en parfaite communion, eh bien toutes ces choses-là vont finir par étouffer Jésus dans notre vie. Toutes les autres choses, ça peut être même carrément d'autres doctrines, ça peut être même tout simplement les soucis, les inquiétudes, ça peut être tout simplement les recherches à gauche et à droite, mais qui ne sont pas conduites par lui, ça va étouffer la vie de Dieu en nous. Pourtant, la vie de Dieu est là. Mais nous avons laissé grandir tellement de choses à côté que ça va l'étouffer et donc ça ne portera pas son fruit. Mais encore, la bonne nouvelle, c'est que ça peut se régler et que notre cœur trop mou, eh bien, peut être consolidé par le Seigneur. Et même si notre cœur est devenu très mou parce que nous avons passé différentes situations, circonstances ou parce que ce qui se passe autour de nous nous a amené là, eh bien, Jésus peut consolider, renforcer notre cœur, nous donner une identité. Et l'une des grandes questions, et je pense que c'est le travail d'une bonne partie de notre vie à tous, c'est de découvrir et redécouvrir qui nous sommes vraiment. Et nous ne pouvons trouver une vraie identité que en Jésus-Christ. Et donc notre cœur peut être mou, inconstant, parce qu'on ne sait pas qui on est, on ne sait pas pourquoi on est sur la terre, on ne sait pas ce qu'on fait là, mais quand nous découvrons Jésus et que nous nous attachons à lui, et que nous permettons à sa parole et sa parole seule de grandir dans notre vie, eh bien, elle va pouvoir s'épanouir et du coup consolider et rendre notre cœur stable et que nous puissions savoir qui nous sommes et prendre des positions. Et plusieurs fois, Jésus dira même à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Ne laissez pas votre cœur être, j'allais dire, pollué par toutes sortes de choses, mais restez fixé sur moi. Restez fixé sur ce que je vous dis moi et votre cœur alors peut être disposé. Et l'Écriture nous dit également de déposer nos fardeaux sur lui, et alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en lui. Donc ici, Jésus disait que ce terrain d'épines, c'est tous les gens qui reçoivent la parole, mais les soucis de la vie, les inquiétudes, les réflexions, les calculs, tout ça, ça étouffe finalement la vie de Dieu. La solution, déposez vos fardeaux. Et ailleurs, il est même dit, rejetez vos fardeaux. Et j'aime utiliser cette expression de carrément envoyer ou catapulter nos soucis sur le Seigneur. C'est lui, ce n'est pas qu'il va les porter au moment où on va lui donner. Au moment où on lui donne, il y a une espèce d'opération qui va se passer dans le temps où quand j'abandonne mon fardeau, je le laisse sur Jésus, et bien tout d'un coup, il y a un retour flash à la croix, et le fardeau était à la croix, il est réglé, c'est terminé, puis on revient dans le présent, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en lui. Il a déjà réglé ce problème-là. Vous savez quoi, le souci que vous gardez en ce moment et auquel vous réfléchissez le jour et même la nuit et pour lequel vous faites des calculs et qui est en train d'étouffer Jésus dans votre vie carrément, a déjà été réglé il y a très longtemps. Mais alors pourquoi c'est pas réglé dans ma vie, me direz-vous? Vous êtes déjà sauvé par la grâce, mais au moyen de la foi. Et la seule chose dont vous avez besoin, c'est d'associer foi, d'accorder foi à ce que Dieu dit. Et de venir dans la foi et dire, Seigneur, je crois que tu as porté ce fardeau, je te l'abandonne. Et de vraiment lui abandonner. Et alors là, vous allez voir que tout d'un coup, ce poids va disparaître. Et là, la paix de Dieu vient. Et votre cœur est rétabli. Vous pouvez retrouver une bonne position. Vous n'êtes plus ballotté, transporté partout au gré des nouvelles, bonnes ou mauvaises, au gré des études, bonnes ou mauvaises, au gré des évolutions sociales, bonnes ou mauvaises, mais vous pouvez rester établi parce que vous êtes fixé sur lui. Et il est en vous, et j'aime cette expression, et je le dis souvent, mais vous savez, si Christ règne en moi, je sais qu'il règne, et que son trône est établi. Et quoi qu'il arrive, ça ne changera pas. Dieu règne. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez vous exciter tant que vous voulez, vous pouvez vous énerver tant que vous voulez, le monde peut s'agiter tant qu'il veut, Dieu règne. Et si Dieu règne sur mon cœur, eh bien, il peut se passer tout ce qui peut se passer autour de moi. Si Dieu règne dans mon cœur, de la même façon que le règne de Dieu est stable, ferme, établi, mon cœur peut être ferme, stable, établi, attaché à la parole de Dieu, attaché à ses promesses, et alors je peux avancer dans tout ce qu'il a prévu pour moi, peu importe ce qui se passe autour de moi. Donc, un cœur dur, ça ne produit rien, ça ne permet pas à la parole de grandir et de se développer. Un cœur trop mou, non plus. Hein. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il faut avoir des cœurs de guimauve, hein. Vous pouvez utiliser l'expression que vous voulez, mais là aussi, parfois, on s'est trompé parce qu'en se disant que par, entre guillemets, charité chrétienne, il faut être ouvert à tout, il faut accepter toutes les choses comme elles sont, et puis après tout, c'est comme ça, et puis on s'en remet, selon l'expression consacrée, à la grâce de Dieu, mais en fait, on s'en remet à rien du tout. Hein. On se cache derrière notre manque de courage de vraiment nous appuyer sur la grâce de Dieu. Parce que si vraiment nous nous saisissons de la parole de Dieu, si vraiment nous nous en remettons à la grâce de Dieu, alors nous n'acceptons pas et nous ne tolérons pas certaines choses dans notre vie, toutes celles qui ne sont pas conformes aux Écritures, tout simplement. Et c'est ce que nous voulons faire, et c'est ce que nous allons faire. Nous allons permettre à Dieu de travailler le champ que nous sommes, et nous allons permettre au Saint-Esprit de lever une génération d'hommes et de femmes qui sont stables, établis, qui réalisent des choses, qui réussissent leur vie chrétienne, si on peut l'exprimer comme ça, mais aussi qui réussissent, qui sont établis, qui ont de l'influence dans leur vie, entre guillemets, normale, dans la société, dans leur famille, dans tous les engagements qu'ils prennent, dans ce qu'ils font, qu'ils soient établis, qu'ils soient stables et qui amènent le royaume de Dieu, le règne de Christ. Vous savez, nous devrions être, j'emprunte cette expression à quelqu'un, les gens les plus heureux sur terre. Nous devrions être les gens les plus équilibrés sur terre. Nous devrions être les gens les plus libres sur terre. Nous devrions être des personnes qui rayonnent et qui reflètent réellement, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous, que sa gloire rayonne à travers notre vie, et sa gloire, c'est que nous soyons équilibrés. Sa gloire, c'est que nous réussissions. Sa gloire, c'est que nous soyons heureux. Sa gloire, c'est que les blessures peut-être que nous avons subies à cause de notre vie, du monde qui nous entoure, eh bien qu'elles soient guéries totalement, et que nous ne vivions plus dans la frustration. La gloire de Dieu, c'est que nous ne soyons plus frustrés. La gloire de Dieu, c'est que nous ne soyons plus hypersensibles. La gloire de Dieu, c'est que nous ne soyons plus inconstants, que nous ne soyons plus ballottés par toute chose, mais que nous soyons heureux et vraiment heureux. Pas que nous fassions comme si nous étions heureux parce que nous sommes chrétiens. Parce que ça ne marche plus. Là, le monde a commencé à comprendre beaucoup de choses et ça nous a discrédité. Mais vous savez, ça a été bon, et même par rapport à notre vie, à Sophie, à moi, c'était très salutaire à un moment donné de se rendre compte que ça ne marchait pas, de faire comme si tout allait bien, et de faire comme si on était plus spirituel que les autres, et de faire comme si Dieu nous parlait, alors que ce n'était pas le cas. Mais il suffisait pour ça d'abandonner toute cette espèce de faux monde dans lequel on s'était inscrit et tout simplement de s'abandonner à lui et de renoncer à nous-mêmes et à ce qu'on pouvait faire nous-mêmes et à la manière dont on pouvait peut-être essayer d'impressionner les gens et de dire Jésus, s'il faut faire quelque chose, mais ce soit avec toi et rien d'autre. Et là, vous découvrez un nouveau monde et dans lequel vous êtes libre et vous êtes en paix. Parce que vous ne vous mettez pas une espèce de pression, de je ne sais pas quelle sorte de résultat. La seule pression qu'il y a, c'est Jésus lui-même qui la supporte, parce qu'il s'est engagé à accomplir sa parole. Donc moi, j'ai la liberté de partager sa parole, parce que ce n'est pas moi qui suis garant de son accomplissement. Je suis garant que le message soit délivré, mais quelqu'un s'est porté garant de l'accomplissement, et il est bien plus grand que moi. Bien plus grand, bien plus puissant, il a bien plus d'autorité, il a toute autorité. Et c'est pourquoi je peux annoncer cette parole avec assurance, parce que je sais qu'il est fidèle à sa parole, si quelqu'un la reçoit avec foi. Et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous ferons encore beaucoup plus. C'est ce qui nous amène à ce troisième cœur que j'ai sorti ici. Bien sûr, Jésus en citait plusieurs, mais je les ai un petit peu rassemblés, et c'est tout simplement un cœur pur. Ce cœur honnête et bon dont Jésus parle, cette bonne terre. Et l'Écriture nous dit, dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Et ce que je voudrais souligner ici, il n'est pas dit « Heureux ceux qui ont un cœur parfait. » Et c'est là que je viens aussi rééquilibrer un petit peu ce que j'ai dit précédemment pour ne pas nous dérouter. Dieu, dans sa grâce et heureusement, agit en nous et à travers nous, même quand notre cœur n'est pas encore dans l'état où il devrait ou pourrait être. Mais ce qu'il attend de nous et ce qu'il nous demande, c'est que nous ayons un cœur pur. Et avoir un cœur pur, ça veut dire avoir un cœur disposé, un cœur vrai, honnête, sincère, qui simplement se livre tel qu'il est devant Dieu et qui simplement s'attend à lui et permet à sa grâce, à sa parole aussi d'agir et d'être réalisé, d'être accompli, et alors nous amener de plus en plus à devenir parfait comme il est parfait. Donc Dieu ne nous demande pas d'être parfait pour le voir à l'œuvre. Il reste certainement des choses à améliorer et à ajuster. Et c'est vrai, et même si, en regardant un petit peu à notre parcours, pour ma part, et je pense, et j'espère pour chacun d'entre nous, en revenant quelques années, peut-être en arrière, pour certains c'est plus frais, donc juste quelques semaines en arrière, si vous regardez, il y a sûrement des choses qui ont changé, en tout cas j'espère, et qui vont mieux au niveau de votre cœur et tout le reste, mais il y a encore beaucoup à faire. Et ça, j'en reste conscient, et nous avons besoin d'en rester conscient, de se dire, je ne suis pas arrivé. Au moment où vous pensez que vous êtes arrivé, déjà vous êtes en train de réendurcir tout ça, en disant, c'est bon, maintenant, on scelle ça y est, et le problème, c'est que vous ne permettez pas au Seigneur de vous emmener encore plus avant, et encore plus loin dans ce qu'il a pour vous. Mais ce qui est important, c'est que nous ayons, comme cette image de l'Écriture, ce cœur d'argile dans les mains du potier. L'argile qui est une matière qui peut être travaillée. Parce que je l'ai montré, un cœur dur, eh bien, le problème, c'est que si vous tapez fort sur quelque chose de très dur, qu'est-ce qui se passe? Ça se casse. Je ne fais pas de démonstration parce que je n'ai pas envie de casser quelque chose. Et si vous essayez de taper fort sur quelque chose de très mou, ça va s'écraser et ça va peut-être après reprendre sa place, mais ça ne fait que en plus rendre la chose encore plus molle et encore plus difforme. Être complètement déformé, et c'est pas ce qu'on veut. Et par contre, si vous tapez fort sur un peu d'argile, bien, il va peut-être y avoir la trace de vos doigts pendant un moment. Mais ce qu'il y a de super avec l'argile, c'est que si vous le retravaillez, eh bien, ça peut de nouveau tout lisse, et il n'y a même plus la trace de vos doigts, il n'y a même plus la trace du choc. Et le meilleur cœur que nous puissions avoir dans la main du potier, dans la main de Dieu, c'est ce cœur d'argile. C'est-à-dire un cœur pas dur, comme du béton, où si vous tapez, ben, ça fait un impact, et là, il faut refaire et retravailler, etc. Et pas tout mou, que quand quelque chose tape dessus, ben, c'est complètement écrasé ou déformé, mais un cœur d'argile, qui fait que même s'il y a des coups, peut-être des coups de la vie, peut-être des coups, des circonstances autour de nous, peut-être des coups parce que on va avoir toujours et encore des déceptions, des difficultés, de la tristesse par moment, mais ça va laisser une trace. On va peut-être avoir mal pendant un temps, on va peut-être être un petit peu déformé, mais cette argile-là, elle peut être ensuite retravaillée par le maître et réparée, et jusqu'à de nouveau être totalement propre, droit, un vase d'honneur dans la main du maître et dans la maison du Père. Et quoi qu'il en soit de l'état de notre cœur, et après ce mini-diagnostic général et rapide que nous pouvons faire, mais Jésus, dans son énoncé, citant Ésaïe qui parlait de lui, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Et l'une des missions et l'une des fonctions pour laquelle Jésus était oint, c'est de guérir les cœurs brisés. Guérir les cœurs brisés. Et il veut alors nous façonner, nous guérir et faire de nous un chef-d'œuvre. L'Écriture dit « Nous sommes son ouvrage », Éphésiens 2.10. Il nous a créés pour des œuvres bonnes préparées d'avance. Et encore une fois, avant d'entrer dans ces œuvres bonnes, parfaites, préparées d'avance, eh bien, il y a un travail qui se fait. Où il nous travaille, il fait de nous un chef-d'œuvre. Et nous nous attachons à sa parole. Donc celui qui a un cœur pur, un cœur honnête et bon, je reprends les paroles de Jésus, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et c'est ce que nous voulons faire, et c'est ce que je nous encourage à faire, alors qu'on va entrer beaucoup plus précisément dans ce thème et dans ces sujets du cœur. Il y a tellement de choses qui peuvent concerner nos cœurs, nos êtres intérieurs, mais vous savez, on pourrait les traiter comme plein d'autres sujets, et puis se dire, super, on a fait un chouette message ou une chouette étude sur, par exemple, le rejet ou sur, par exemple, les blessures ou les abus et tout ce qu'on veut. Mais mon objectif à travers ces enseignements qu'on va avoir ensemble, ce n'est pas juste qu'on ait touché ces sujets et puis qu'on les ait traités et que ça nous ait fait du bien 5 minutes. Hein. comme si nous avions un cœur de pierre où ça nous fait du bien tout de suite, mais finalement, deux jours, deux semaines, deux mois après, dans les situations qui vont se présenter, eh bien, ça fait autant mal qu'avant. On est autant instable qu'avant. Mon but et mon désir et ma prière, c'est que, à travers cette série d'enseignements où l'Esprit de Dieu va encore nous inspirer les sujets et comment on va les traiter, eh bien, que nous puissions réellement traiter non seulement un sujet comme un message, mais que l'Esprit de Dieu puisse traiter ces sujets-là, ces questions-là, ces situations-là dans nos cœurs, et que nous en ressortions guéris, délivrés, transformés. Et alors, quand les jours, les mois, les semaines vont passer, et que les situations vont se présenter, alors là, nous pourrons réaliser, nous rendre compte, waouh, l'œuvre que Dieu a fait dans ma vie. Parce qu'il se passe peut-être quelque chose qui me serait arrivé l'année dernière, ou l'année d'avant, et ma réaction est complètement différente. Je me dis, waouh, normalement ça aurait dû me mettre par terre pendant 3 semaines, et là, c'est là, mais je suis en paix, parce que l'Esprit de Dieu m'a guéri, m'a délivré, m'a restauré dans ce domaine-là, et c'est vraiment mon désir et ma prière. Et par rapport à ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ben, quel que soit l'état de notre cœur maintenant, peut-être qu'on se rend compte qu'on a un cœur sur certaines choses qui est dur, ou sur d'autres choses qui est très mou ou trop mou, eh bien nous pouvons recevoir la grâce de Dieu, être changés. La parole de Dieu dit dans Ézéchiel 36, vous pouvez recevoir un cœur nouveau. Et il est celui qui a ce pouvoir de nous donner un cœur nouveau. Donc si notre cœur est trop mou, instable, flottant, eh bien il peut nous raffermir. Et alors il nous donne, selon la prière du psalmiste, un cœur pur et un esprit bien disposé. Et c'est ce que je prie et ce que je nous invite à prier ensemble par rapport à toute cette parole et ce thème qu'on va développer dans les semaines encore qui viennent, bien de dire, Dieu crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Ce qu'il nous demande à nous, d'ouvrir nos cœurs et de recevoir avec douceur cette parole qui peut sauver nos âmes, mais en même temps, nous pouvons lui demander, Seigneur, aide-moi, donne-moi ce cœur pur, ce cœur bien disposé, pour que ton œuvre en moi se réalise et qu'à travers moi aussi, eh bien, tu puisses accomplir ton œuvre et amener la guérison, la délivrance, la restauration aux gens qui sont autour de moi. Et ça, c'est vraiment un grand besoin dans le monde qui nous entoure, c'est de trouver de vraies réponses. Pas juste qu'on vienne couvrir les vrais problèmes de fond avec 2 versets bibliques et puis une exhortation à la foi, mais que nous allions en profondeur et que nous osions aller en profondeur et traiter les problèmes pour que les gens soient guéris. Jésus appuyait là où ça faisait mal, mais Jésus guérissait. Jésus a appuyé là où ça a fait mal pour toute l'humanité. Jésus a pointé du doigt le péché. Ça fait mal de se dire qu'on est pécheur et qu'on est perdu. Mais à cause de cela, il nous a amené la solution. Il est mort à notre place. Et aujourd'hui, si Jésus pointe du doigt, et dans les jours et les semaines qui viennent, alors qu'on ira dans la parole, Jésus va pointer du doigt certains sujets, ça ne sera pas pour appuyer pour nous faire mal, mais il va appuyer pour dire, regarde, ça aussi je l'ai porté à la croix, et tu peux être guéri, et vous serez guéri, et vous pourrez apporter la guérison aux gens qui vous entourent.